Il y en a marre de toujours parler de la mort. Si on l'ignore, elle n'existera plus. Oui, mais il faudrait alors que tous les journaux évacuent leur rubrique nécrologique, et s'ils le font, ça ne sera pas bon pour le business, parce qu'ils vont faire des mécontents. Car les familles endeuillées veulent justement qu'on en parle de leurs défunts, et qu'on se souvienne combien celui ou celle qui nous a quittés était quelqu'un de fantastique, et qu'on fasse son éloge. Ce n'est peut-être pas pour demain. Mais, un jour, la rubrique nécrologique disparaîtra d'elle-même et on n'ira plus fleurir les tombes des cimetières. Je continue à lire dans le chapitre 21 de l'Apocalypse. « Dieu essuiera toute larme des yeux des hommes. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » Verset 4. Rien que le temps de lire l'introduction de cette étude, et une centaine de personnes ont trépassé quelque part sur Terre, et ça n'inclut pas les enfants avortés. Ça fait réfléchir. À tout instant du jour ou de la nuit ont lieu des processions funéraires de par le monde. La mort est la pire de toutes les malédictions qui affligent le genre humain. Mais, comme je l'ai déjà dit, la dame et sa faux seront jetés dans l'étang de feu à tout jamais. Dans la nouvelle création, Dieu sera constamment au milieu de son peuple. Comme il est la source de vie, sa présence implique forcément la disparition de la mort et du cortège de souffrances qui lui est associé. La révélation que reçoit l'apôtre Jean n'est pas entièrement nouvelle, car Ésaïe écrit « L'Éternel fera disparaître la mort à tout jamais, et de tous les visages, le Seigneur, l'Éternel, effacera les larmes, et sur toute la terre, il fera disparaître l'opprobre pesant sur son peuple. » L'Éternel a parlé. Et, parlant du sacrifice de Jésus, le prophète a aussi dit « C'est de nos maladies qu'il s'est chargé, et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. » Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Il est vrai que ce passage souligne d'abord la guérison spirituelle dans le temps présent, mais elle est également physique, et se réalisera au temps voulu par Dieu. La déclaration « Dieu essuiera toute larme de leurs yeux » ne veut pas dire que les croyants arrivent au ciel en larmes, mais que toutes les raisons possibles et imaginables qui aujourd'hui nous attristent, nous font souffrir, auront disparu en même temps que l'ancienne terre. Les corps glorifiés des croyants ne sont sujets à aucun désagrément quel qu'il soit. Jamais blessés, jamais malades, jamais fatigués et toujours en grande forme. Je continue le texte. Alors celui qui siège sur le trône déclara, « Voici, je renouvelle toutes choses. » Il ajouta, « Écris que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. » Verset 5. Le présent univers ne va pas être réparé et remis à neuf. Il va retourner dans le néant d'où il est sorti. Dieu créera un nouveau ciel et une terre entièrement nouvelle pour l'éternité. Il se peut qu'à l'écoute de ces paroles, Jean soit bouche bée. Alors le Seigneur lui rappelle d'écrire ce qu'il vient d'entendre, parce que ces choses sont certaines et véritables. Alors qu'il était encore sur terre, Jésus a dit à ses disciples, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. » Aussi vrai que cette terre disparaîtra, la parole de Dieu demeure éternellement, et il est certain que ce qu'il dit se réalisera. Le renouvellement de toutes choses peut nous paraître très lointain, et pourtant il est tout proche. Une fois sa vie terrestre achevée, le croyant est instantanément dans la présence du Seigneur, puis il s'installe déjà dans la Nouvelle Jérusalem, la résidence éternelle des rachetés. Là, il attend son nouveau corps, la fin de ce monde et le début de l'autre. Cependant, il ne trouve pas le temps long, parce qu'il est dans un environnement parfait et dans une communion sans nuage avec Dieu, et il retrouve les croyants qu'il a connus et qui l'ont précédé. Devant lui s'étend un avenir glorieux sans aucune ombre. Quelle différence avec ce que nous vivons ici-bas. Si je considère mon existence présente, je dois avouer qu'elle laisse grandement à désirer. Je suis frustré dans mes projets, je vois mes espoirs déçus, je me sens coincé et tout ce que je fais est imparfait. J'aurais voulu être un meilleur élève, un meilleur mari, un meilleur père, un meilleur ami, un meilleur évangéliste, un meilleur conseiller, un meilleur pasteur, et surtout moins captif des valeurs de ce monde et davantage fidèle à Jésus-Christ. Même dans des domaines secondaires, j'aurais voulu être un meilleur bricoleur, un meilleur jardinier, un meilleur sportif. Quand j'étais dans le secondaire, le mot que mes profs aimaient écrire sur mon livret scolaire était « médiocre ». C'est tout dire. J'aime bien les paroles de l'apôtre Paul qui écrit « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Avec Dieu, on peut toujours recommencer. Et un jour, je remettrai tous les compteurs à zéro et au lieu de médiocre, ce que j'accomplirai sera parfait. Peut-être même que dans les cieux, je pourrai comprendre les algorithmes et acquérir des milliers d'autres connaissances dont j'ignore même à présent jusqu'à leur existence. Je suppose aussi qu'avec un corps de résurrection, on doit pouvoir assez facilement faire un triple saut périlleux à ski ou sur une planche à roulettes. Comme Dieu est un être infini, même après des siècles et des millénaires, les habitants du ciel auront toujours quelque chose de nouveau qu'ils pourront apprendre de lui. Je continue le texte. Puis il me dit, « C'en est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » Verset 6. L'alpha et l'oméga sont la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Jésus a déjà utilisé cette expression au tout début du livre quand il s'est présenté à l'apôtre Jean. À cette occasion, il ajouta « Je suis celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant ». Mais ici, et selon le principe de la poésie hébraïque, le Seigneur répète en d'autres mots ce qu'il vient de dire. Vers la fin du livre, Jésus dit à nouveau « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin ». Soit dit en passant que le commencement et la fin a la même signification que premier et dernier, qui, dans l'Ancien Testament, est un titre divin. Le prophète Ésaïe écrit « Ainsi dit l'Éternel, lui, le roi d'Israël, le Seigneur des armées célestes, moi ». Je suis le premier, je suis le dernier, et en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Écoute-moi, Jacob, Israël, que j'appelle. Je suis toujours le même. Moi, je suis le premier, et je suis aussi le dernier. Il est entendu que c'est l'Éternel qui a créé l'univers, la matière, l'espace-temps, et qui est à l'origine de l'humanité. C'est aussi lui qui tourne les pages de l'histoire et qui ferme le livre quand il en a assez. Je continue le texte. « À celui qui a soif, je donnerai, moi, à boire gratuitement de la source d'où coule l'eau de la vie. » Verset 6. Cette parole est adressée au lecteur du livre de l'Apocalypse. On éprouve la soif quand on est en manque d'eau. Et c'est un besoin qui, s'il n'est pas satisfait, se fait de plus en plus pressant. Ici, avoir soif, c'est être conscient de ses besoins spirituels et donc de Dieu. C'est désirer son pardon, sa présence, ainsi que son soutien dans tous les domaines de la vie. Dans le sermon sur la montagne, Jésus a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice ». Car ils seront rassasiés. Cette béatitude condense une parole d'Ésaïe qui écrit « Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau, et même vous qui n'avez pas d'argent, venez, achetez et mangez, venez acheter sans argent, oui, sans paiement du vin, du lait. » Fin de citation. L'évangile selon Jean rapporte que Jésus a dit à la femme samaritaine « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et plus loin dans cet évangile, Jésus enseigne qu'il est lui-même l'eau vive quand il dit aux Juifs « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que celui qui croit en moi boive. » Oui, mais pour venir à Jésus, il faut d'abord avoir soif de Dieu. « Soif du Dieu vivant », écrit le psalmiste. Alors seulement, il peut boire gratuitement la source d'où coule l'eau de la vie. Ce qui est somme toute une bonne définition de la vie éternelle, mais aussi de la vie chrétienne. Cependant, ce n'est que dans le royaume des cieux que le croyant pourra boire goulûment et jouir de la félicité éternelle. Alors il sera totalement et absolument satisfait. Je continue le texte. « Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Verset 7. Le terme « vainqueur » comporte un certain élément de violence, car il est utilisé dans un contexte de rixe ou de compétition entre plusieurs adversaires où chacun tente de battre les autres. Ici, c'est pareil, sauf qu'on essaye de triompher de soi-même en se mesurant aux exigences que Dieu nous donne dans sa parole. Dans la première épître, Jean définit un vainqueur quand il dit « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Qui en effet triomphe du monde? Celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Par ailleurs, Jésus a utilisé le terme « vainqueur » 7 fois de suite pour décrire les croyants fidèles à la fin de chaque lettre adressée aux 7 églises d'Asie. L'héritage du vainqueur est d'être appelé « fils de Dieu », ce qui est le plus grand privilège qu'un homme puisse recevoir. Littéralement, le texte dit « Il est fils de moi », une tournure de phrase qui met le possessif en valeur. C'est le seul endroit du Nouveau Testament où la relation du croyant à Dieu est définie de cette manière. Aujourd'hui déjà, les croyants sont fils et filles adoptés par le Père, une vérité souvent répétée dans le Nouveau Testament. Par exemple, dans son évangile et dans sa première épître, Jean écrit respectivement « Certains ont accueilli la parole devenue homme. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Cependant, ici-bas, nous n'avons qu'un avant-goût de ce que le statut de fils ou de fille de Dieu représente. C'est dans le royaume de Dieu que nous jouirons pleinement de ce privilège. » Je continue le texte. « Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, meurtriers et débauchés, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. » Verset 8. Jean conclut sa vision de la nouvelle création avec un avertissement solennel adressé à ceux qui courent le risque de se voir exclure du royaume des cieux. Contrairement aux vainqueurs, qui sont fils de Dieu, les impies sont coupables de mener une vie de bâton de chaise. Cette liste de 8 péchés est un exemple de leur comportement. Elle indique qui n'aura pas droit de participer aux bénédictions célestes. On trouve aussi de pareilles listes sous la plume de l'apôtre Paul et une autre à la fin du chapitre suivant, le dernier de l'Apocalypse. Les lâches sont ceux qui, au lieu de persévérer dans la foi, retournent leur veste et abandonnent le Seigneur dès qu'ils ont une épreuve à subir. Plus tôt dans le livre, il est dit « Si quelqu'un doit aller en captivité, il ira certainement en captivité. Si quelqu'un doit périr par l'épée, il périra certainement par l'épée. C'est là que ceux qui appartiennent à Dieu doivent faire preuve d'endurance et de foi. » Même si cette exhortation s'adresse d'abord aux croyants de la tribulation, elle concerne tout autant les croyants d'aujourd'hui. Dans la parabole du semeur, Jésus raconte que la semence tombe dans quatre terrains différents et l'un d'entre eux correspond au lâche. C'est celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il l'accepte aussitôt avec joie, mais il ne la laisse pas prendre racine en lui car il est inconstant. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Fin de citation. Ces personnes ne sont attachées ni à Dieu ni à sa parole, ils n'ont pas vraiment la foi. Jésus a aussi dit, « Celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. » En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit, « Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. » Après les lâches, j'en cite les infidèles. Ce sont ceux qui vont à deux râteliers à la fois. Ils disent bien accepter le Seigneur, mais, sait-on jamais, ils veulent assurer leurs arrières, soit en faisant des aumônes et des bonnes œuvres, soit en se confiant dans des rites. En réalité, ce sont des agents doubles, et Jésus n'en veut pas dans son ciel. Les dépravés sont littéralement ceux qui commettent des actions abominables. Le mot pour abominable est un dérivé du verbe « puer », c'est tout dire. Ces actions abominables décrivent souvent les pratiques idolâtres, mais comme son sens l'indique, elles peuvent être étendues à tout ce qui pue, à ce qui est vil, détestable et souillé. Les meurtriers sont exactement ça. Ils tuent leur prochain pour leur propre satisfaction. Le mot pour débaucher a donné « porno » en français. En grec, il couvre tout ce qui fait désordre au niveau sexuel, mais décrit plus spécialement les relations illicites, la prostitution et l'adultère. Le mot pour magicien a donné « pharmacie » et tous ses dérivés en français. Il s'agit de l'utilisation de drogues et d'hallucinogènes, ce qui était d'un usage courant dans les religions à mystère et dans toutes les pratiques occultes. Les idolâtres incluent tous ceux qui s'adonnent à une fausse religion, même si elle est dite chrétienne. Le Seigneur de l'univers ne se partage pas, ni avec une fausse divinité, ni avec un quelconque rite. La vénération de certains objets, de statues et d'images porte atteinte à la sainteté de Dieu. C'est une faute très grave. Les menteurs occupent une place de choix puisque trois fois dans le livre de l'Apocalypse, le mensonge est souligné, présenté comme la clé de voûte et le point culminant des fautes qui condamnent le pécheur. Ceux dont la vie est habituellement caractérisée par de tels comportements prouvent qu'ils n'ont pas reçu la grâce de Dieu pour être sauvés et donc ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. Alors que les croyants sont destinés à occuper la Nouvelle Jérusalem avec Dieu au milieu d'eux, les incrédules, les impies et les autres ressusciteront pour le jugement et seront jetés dans un endroit qui est particulièrement horrible. Le but de la vie sur terre n'est pas de faire une carrière, d'avoir du bon temps, un maximum de vacances et de s'assurer une retraite dorée, mais de choisir où on va passer l'éternité. À partir d'ici, Jean continue à décrire ce qui attend les croyants dans le royaume des cieux, mais les mots lui manquent, tellement la vision qu'il reçoit lui coupe le souffle. La révélation qui est consignée dans ce livre n'est pas le fruit de l'imagination du vieil apôtre, mais une réalité spirituelle. Ce qu'il a vu est quasi impossible à décrire. L'apôtre Paul aussi a fait une expérience semblable. Parlant de lui-même, il écrit « Je connais un homme, un chrétien qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au troisième ciel. Était-ce dans son corps? Je ne sais. Ou sans son corps? Je ne sais. Mais Dieu le sait. Je sais seulement que cet homme a été enlevé au paradis et qu'il a entendu des paroles qu'on ne peut pas répéter parce qu'il n'est pas permis à un homme de les dire. D'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Fin de citation. Il est tout à fait naturel que les croyants s'interrogent sur l'au-delà, surtout qu'ils vont y passer beaucoup de temps. L'éternité, c'est long. Moi, quand je dois aller dans un endroit nouveau, ne serait-ce que pour une nuit, j'aime bien m'assurer que j'aurai le logis, le couvert et surtout un lit. En plus, je me fais une petite valise avec des tas de trucs au cas où j'en aurais besoin et afin que je ne sois pas pris de court, parce que j'aime pas ça. Alors là, qu'il s'agit de partir dans l'au-delà avec un aller simple et pour un séjour sans fin, j'aimerais bien, si possible, avoir quelques points de repère et savoir où je vais me retrouver. Peut-être que vous êtes pareil que moi. En tout cas, Dieu le sait, et pour cette raison, par l'intermédiaire de Jean, il nous donne quelques informations sur la Nouvelle Jérusalem, le lieu de félicité et de repos éternel des rachetés dans le royaume des cieux. En 2011 est sorti en anglais un petit livre qui relate l'expérience d'un enfant de 4 ans qui, pendant une opération grave, est allé dans les cieux. C'est captivant. Son titre, traduit, est « Le paradis, c'est pour du vrai ».